Bien, bonjour tout le monde et bienvenue à cette présentation sur le visual novel, donc un support culturel original et riche. Donc je suis Jordan, ou Merek, et je suis président de l'association Kawasoft, qui va vous faire cette présentation. En tant que président de l'association, je suis en charge de la coordination de l'équipe et des équipes de projet, et aussi de la communication extérieure avec les autres entités. Donc maintenant, je vais laisser Kouakou et Mop se présenter.
Donc, bonjour, je m'appelle Fabien Okouakou. Donc, je suis trésorier et traducteur principal de l'association. Et je fais aussi partie d'autres associations de Japanimation, donc la brigade SOS francophone, qui vous présentera le cosplay tout à l'heure. Et Type Moon France, qui est dédié à un studio de visual novel Type Moon. Donc,
bonjour, je m'appelle Nathanaël, alias Mop. Donc, au sein de l'association, moi, je suis un peu l'homme à tout faire. Je m'occupe principalement du côté technique, au niveau de l'intégration des visual novels. Je m'occupe aussi de relecture et de contrôle qualité sur nos traductions. Je fais également partie des associations citées par mon camarade, à savoir la Brigade SOS francophone et Type Moon France.
Bien, donc on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce qu'un visual novel ? Alors, un visual novel, on le définit globalement comme un roman visuel interactif. Donc, je vais commencer par vous détailler ce que c'est que la partie visuelle. Donc globalement, imaginez un roman sur un écran d'ordinateur ou parfois de console sur lequel vous avez du texte, une image, de la musique, des sons et parfois des voix en plus. Donc c'est un média assez particulier du coup qui propose une histoire scénarisée avec un support du coup visuel et sonore. La partie interactive là-dedans, c'est qu'on a une grande partie des visual novels qui proposent des choix qui permettent de directement influencer sur le déroulement de l'histoire. Un petit peu comme ce que vous pouvez connaître sous un livre dont vous êtes le héros, pour les formats papier, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui doivent connaître, mais aussi parfois des mini-jeux ou des parties RPG. Donc là-dessus, je vais revenir là-dessus tout de suite après. Donc ici, vous avez typiquement un écran de visual novel. Comment ça se présente, du coup, une capture d'écran? En bas à gauche, vous avez le personnage qui parle. Alors, assez exceptionnellement, dans ce visual novel particulier, vous avez la tête du personnage qui parle, en l'occurrence le protagoniste, son nom, David. Juste à côté, vous avez la zone de texte. Alors, c'est à peu près visible. Donc, c'est là que vous avez toutes les parties dialogue, parce qu'il y a quand même pas mal de dialogue dans ce genre de média. Les descriptions, les pensées, et tout ce genre de choses. Le texte, voilà. Tout en bas à droite, ici, vous avez l'interface, qui vous fera penser à n'importe quelle interface de jeu vidéo, avec les boutons sauvegarder, charger, options, etc. Et enfin, la partie majeure du visual novel, la partie visuelle. Ici, vous avez le décor, l'ambiance visuelle, les CG, ce qu'on appelle les computer graphics, qui sont en l'occurrence des scènes particulières, mieux dessinées, qui permettent de focaliser sur une action ou sur un point d'un décor en particulier. Et, voilà. Tout de suite après, ici, vous avez une autre screenshot, enfin une autre capture d'écran d'un autre visual novel. Donc, en l'occurrence, c'est Katawa Shoujo. On en parlera brièvement après. Donc, cette screenshot, ce qu'on voulait vous montrer dessus, c'est vous avez trois choix. Donc ces choix influencent directement sur l'histoire. Vous avez tout en bas, encore une fois, la case de texte où vous avez les pensées. Enfin, ici, la pensée du protagoniste. Dans le fond, vous avez le décor, en l'occurrence une salle de classe, et ce que nous, on appelle une sprite, c'est-à-dire un personnage en surimpression par-dessus, quelque chose d'assez courant et qui permet de situer quel personnage parle, quel personnage est présent dans la pièce. Ça permet de renforcer un petit peu l'immersion à l'intérieur de l'histoire. Je vais maintenant passer sur les différentes caractéristiques principales des visual novels. Donc, la première caractéristique majeure, c'est le NVL, qui est globalement ce qu'on appelle le VN classique. Alors VN, on utilise l'abréviation VN pour visual novel, histoire que ça ne vous surprenne pas. Un visual novel classique, c'est tout ce qui est énormément focalisé sur le texte. Ça se rapproche beaucoup plus du côté romancé que du côté interactif. En l'occurrence, dans un VN classique, le texte peut parfois occuper une grande partie de l'écran. Ça arrive par exemple avec Fate Stay Night, donc Kouakou parlera un petit peu plus après. Vous avez ensuite les ADV. Les ADV, c'est les VN avec une grande interactivité, qui peut passer par un grand nombre de choix, plein de mini-jeux ou ce genre de choses. Vous avez les VN avec des mini-jeux. Donc là-dedans, les mini-jeux, ça peut être globalement des jeux qui vont du morpion au jeu de cartes, à la gestion d'une boutique, la gestion d'une équipe ou des trucs comme ça. Ça peut aller vraiment du plus simple au plus complexe. Et parfois, ça n'a aucune influence sur l'histoire. Et parfois, au contraire, ça a une influence énorme sur l'histoire. Vous avez les VN RPG, donc les VN avec des éléments de RPG dedans. Globalement, Ça, je vais pas trop le détailler. RPG, c'est les role-playing games ou les jeux de rôle. C'est globalement comme n'importe quel jeu de rôle que vous aurez pu voir sur PC ou sur console. Je reviendrai là-dessus avec des captures d'écran, évidemment, pour vous montrer un petit peu. Et ensuite, les VN par épisode. Globalement, c'est un peu comme si vous preniez un bouquin et que vous vous disiez, bah voilà, il y a plusieurs volumes. Bah, les VN par épisode, c'est pareil. Vous avez l'épisode 1, 2, 3, 4. Et c'est un découpage qui permet une certaine progression avec des interruptions au milieu et qui permettent justement d'avoir quelque chose d'un petit peu plus poussé parfois et qui s'étend plus dans le temps, qui permet à l'auteur d'avoir plus de temps pour faire les choses. Enfin, vous avez le kinetic novel, qui sont donc les visual novels sans choix. Kinetic novel, c'est les visual novels linéaires. Vous avez l'histoire qui vous est racontée de bout en bout. Et là-dessus, c'est vraiment quelque chose où l'auteur il vous met dans l'histoire et il vous raconte l'histoire à sa façon, d'une seule façon. Ici, je vous ai mis un mini-jeu dans un visual novel. En l'occurrence, il s'agit de Little Busters. Ici, vous pouvez voir, c'est un jeu de baseball qui est intégré dans le jeu, qui n'a globalement aucune influence dans le jeu, mais qui permet une meilleure immersion en se disant, vous jouez dans la peau des personnages, alors dans la peau du personnage principal en tous les cas. Et à gauche, vous avez le lanceur, à droite, vous avez le batteur, et globalement. Ensuite, vous avez ici un VNRPG. Donc, il s'agit pour l'exemple de Utawale Lumono. C'est globalement un VN où vous avez de grosses parties VN, c'est-à-dire avec du texte, comme ce que je vous ai présenté tout au début, mais aussi avec des scènes de combat qui, elles, ressemblent plus à des parties RPG, dans un RPG de base, comme je vous ai dit. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des différents genres de visual novels. Alors, il faut savoir que les visual novels sont pas mal... ont pas mal de catégorifications, parce que les Japonais sont assez friands de ça. On va commencer avec les Nakige. Alors les Nakige, ça va être assez sympathique à expliquer. Donc nous, on l'a défini comme histoire à forte charge émotionnelle. Un Nakige, la racine du mot Nakige, c'est Naki, le verbe pleurer, et Ge, qui vient de Geemu, qui signifie jeu. Geemu. Un Nakige, c'est un jeu donc qui est fait pour faire pleurer. Mais la définition de pleurer, pour les Japonais, ça peut être pleurer de joie comme pleurer de tristesse. Et normalement, quand vous pleurez de joie, ça peut donner globalement... C'est pour ça que nous, on a mis une forte charge émotionnelle. Mais c'est pas forcément triste, encore une fois. Donc ça peut être des histoires dramatiques comme des histoires drôles, des histoires poignantes, etc. Ensuite, vous avez les Utsuge. Alors c'est encore une fois un truc particulier, c'est les histoires déprimantes. Utsu signifie déprimé en japonais. Les histoires déprimantes, pour les Japonais, on n'est pas forcément censé pleurer. Un Utsuge n'est pas forcément un Nakige. Donc, c'est une définition assez particulière que les Japonais ont. C'est assez compliqué, du coup, pour nous de retranscrire ça. Du coup, on l'a mis comme ça. En Utsuge, on peut citer, par exemple, Narcissus, sur lequel on reviendra tout de suite après. En Nakige, pour ceux qui peuvent connaître, il y a Clannad et Canon, qui sont typiquement une Nakige assez connue. On a ensuite les VN en adaptation. Donc, c'est les histoires adaptées d'une œuvre existante. Ça peut être un roman, un manga, un animé ou quoi que ce soit. Les fanfictions, qui sont donc les histoires étendant ou modifiant un univers, une œuvre existante, en reprenant les personnages, l'univers, des petits points, genre modifier l'action, comment ça se passerait ici et compagnie. Vous avez ensuite les galgés. Alors les galgés sont quand même assez connus généralement. Ce sont les jeux de drague pour public majoritairement masculin. Donc derrière ça, vous avez un personnage principal masculin, une ou plusieurs héroïnes généralement, et le but du jeu, c'est de sortir avec. On va pas s'en cacher. En galgué assez connu, on a par exemple Dakapo, qui est un assez bon exemple de galgué. À l'inverse de ça, vous avez les otogé. Donc, ce sont les jeux de drague pour public majoritairement féminin, où là, vous avez un personnage principal qui est féminin, une fille donc, et un ou plusieurs personnages masculins qu'il va falloir draguer. Alors, en otogé, on peut citer Utano Plinsama, Starry Sky et beaucoup d'autres. Enfin, une dernière catégorie dont on doit un peu parler, ce sont les Nukige, donc les histoires avec contenu adulte prédominant. On ne va pas trop s'étendre là-dessus parce que ce n'est pas le but de notre présentation, mais sachez que ça existe et qu'il y en a quand même pas mal. Donc, je vais terminer par un petit historique. Donc, les VN sont nés dans les années 80, plus précisément, les premiers qu'on ait référencés datent des années de 1983. Donc, globalement, avant que je sois né, avant que tout le monde ici soit né. Ils ont été majoritairement développés sur PC 88, PC 98 et MSX. Alors MSX, c'est une très vieille console. PC 88, PC 98. Pour les plus geeks d'entre vous, pensez à l'IBM PC. C'est l'équivalent chez NEC au Japon. Voilà. Ils ont été développés par des petites boîtes comme Ignix et Square qui deviennent Square Enix, Hudson et Koei. Maintenant, elles sont un petit peu moins petites, on va dire. Et plein d'autres petites boîtes aussi qui n'existent plus aujourd'hui. Les visual novels ont connu un boom assez particulier en 2000, avec en tête de file Kit, Ape Moon et Leaf, qui est connu pour ses Nakige notamment, avec Lana DR et Canon et encore plein d'autres titres. Ape Moon est connu par exemple pour Tsukihime, Fate Stay Night, Fate Holo Ataraxia et plein d'autres. On va y revenir un petit peu là-dessus avec Fate Stay Night. Il y a aussi Leaf qui est connu pour Utawale Lumono, To Hurt, qui a créé aussi le genre du Nakige. Leaf est un petit peu moins connu en Occident, mais est extrêmement connu au Japon en tous les cas. Alors le média connaît un léger recul au Japon ces dernières années, mais connaît une forte poussée d'intérêt en Occident à l'inverse, notamment par le biais de traductions amateurs et de créations amateurs qui sont assez sympathiques maintenant. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Kohaku, qui va vous parler de Fate Stay Night.
Donc, on a voulu vous présenter un exemple type de visual novel très connu au Japon. Donc ici, Fate Stay Night, qui est un des plus gros là-bas. Donc, il a été créé en 2004 par le studio Type Moon. Donc, studio qui a été créé en 2000 et qui avait sorti un autre jeu avant, donc Tsukihime. Il est sorti pour la première fois donc en version plus de 18 ans. Et suite à son énorme succès, il est ressorti en version tout public sur PC et donc sur PS2 et sur PS Vita. Donc, suite à son succès, il a aussi connu une adaptation en série animée, en film d'animation, et il a eu aussi donc une suite et une préquelle sous diverses formes, que ce soit roman, manga ou animé. Donc, on a un scénario très riche qui est basé principalement aussi sur des sites météoriques, donc légendes arthuriennes, mythologie grecque, etc. Parce qu'en fait, l'histoire globalement, c'est qu'on a un héros qui se retrouve mêlé à une guerre entre des magiciens qui utilisent des héros de l'ancien temps pour se battre entre eux. Donc on peut avoir comme par exemple tout simplement héros invoqués comme le roi Arthur, donc des légendes d'Angleterre d'il y a quelques centaines d'années, ou Hercule par exemple de la mythologie grecque. Donc c'est un jeu qui a un certain nombre de choix. Donc on a trois routes majeures qui sont chacune basées sur une des principales héroïnes. Donc ces routes se complètent entre elles et permettent de voir l'histoire sous plusieurs points de vue, aussi bien du point de vue des magiciens que des héros qui ont été invoqués. Donc on peut remarquer aussi qu'il y a des bad ends ou mauvaises fins dans le jeu, c'est-à-dire que si vous faites de mauvais choix, vous allez tout simplement mourir, et donc vous allez devoir recommencer plus tôt dans le jeu pour faire les bons choix et arriver à la bonne fin. Donc là on a un exemple d'écran du jeu. Donc dans ce cas-là, contrairement à ce qui était montré au début, la zone de texte prend tout l'écran et on a les personnages en fond. Donc on a aussi après une interface tout à fait classique qu'on ne vous montre pas ici. Donc, je vous montre un autre exemple. Donc là, on a par exemple plusieurs personnages. Donc comme vous pouvez le voir, le jeu est en anglais. Alors il n'a officiellement été traduit dans aucune langue, mais donc il y a eu des fan trad. Dans différentes langues, notamment l'anglais, l'espagnol, etc., mais pas en français malheureusement, mais qui sont toutes donc non officielles. Donc c'est un jeu assez long qui dure environ une cinquantaine d'heures, et l'atmosphère est très sombre et sérieuse, même si parfois on a quelques scénettes pour alléger l'atmosphère. D'ailleurs, on peut noter que toutes les morts sont référencées dans le jeu, et si vous arrivez à toutes les avoir, vous avez des scénettes spéciales amusantes en plus, en bonus, quoi. Voilà, donc c'est quand même un exemple d'une des plus grosses franchises qui existent au Japon en termes de visual novel. Donc maintenant, Merek va vous présenter un autre très gros visual novel.
Voilà, alors moi maintenant je vais reprendre la parole pour vous parler de Steins Gate. Alors Steins Gate est une licence un petit peu plus récente que Fate Stay Night, mais qui a eu un succès, tout autant que Fate Stay Night, a eu un énorme succès au Japon. Donc Fate Stay Night a été développé par Nitro Plus et 5PB. Nitro Plus est très connu pour ses autres visual novels, par exemple Sayano Uta, il y a un exemple assez connu, on va dire. Et 5PB qui est globalement une boîte d'édition, une boîte de production au Japon, qui s'occupe de plusieurs médias type animé, roman, manga, etc. Il est sorti donc en 2009, donc c'est quand même assez récent. Au début, il est sorti sur Xbox 360, et face au succès, ils ont dit on va l'adapter aussi sur PC. Puis sur d'autres consoles, par exemple la PS3, la PS Vita, et aussi sur iOS, ce qui est assez nouveau, c'est de le sortir maintenant De plus en plus, on a des sorties sur format mobile, téléphone portable et tablette. Donc il fait partie d'une trilogie dans un univers de science-fiction. Globalement, les trois traitent d'univers de science-fiction qui sont assez communs. Alors chacun a sa particularité. On a Chaos 7 qui est donc juste avant Steins Gate, qui lui parle plutôt de pouvoir psychique. On a donc Steins Gate qui est le deuxième, qui parle de voyage temporel. Et on a enfin Robotics Note qui est sorti en 2012 en animé et qui lui parle de robots géants. Donc on a aussi en point commun, on a Chaos 7 et Steins Gate qui partagent Akihabara. Alors Akihabara, c'est un quartier de Tokyo qui est connu notamment pour tout ce qui est son côté high-tech, tout ce qui est culture otaku, tout ce qui est culture geek. Vous en trouvez énormément à Akihabara. Donc dans ce quartier, l'action se passe pas mal dans ce quartier, dans ces deux premiers VN. Et sur les trois, ça se passe dans un groupe d'amis. Alors à chaque fois différent évidemment, mais le groupe d'amis est assez similaire quand même à chaque fois. Ce qu'on peut noter pour Steins Gate, alors c'est les voyages temporels, donc je reviens là-dessus, à savoir que le groupe d'amis découvre complètement par hasard un jour qu'avec un micro-ondes et un téléphone portable, ils arrivent à envoyer ce qu'ils appellent des d-mails. Globalement, ils arrivent à envoyer des SMS dans le passé. Et donc comme ça, ils expérimentent, ils se disent « Ah, c'est marrant, on peut envoyer des SMS dans le passé, c'est plutôt drôle, etc. » Au début, ils jouent, et ils expérimentent vachement avec l'effet papillon. Et puis à un petit moment, ils commencent à faire « Ouais, bon, ça commence à avoir de vraies conséquences. » Et c'est à ce moment-là qu'arrive le CERN. Alors le CERN avec un S, qui est plutôt une référence au vrai CERN, mais il ne voulait pas directement utiliser le CERN qu'on connaît. Donc le CERN avec qui met ses propres expérimentations sur le voyage temporel avec le LHC, en compagnie des Illuminati. Et ils se permettent ainsi de dire « Ah ben non, nous on n'est pas tout à fait d'accord. Nous, nos expériences, il n'y a que nous qui avons le droit de les faire. » Et globalement, ils décident tout simplement d'éliminer le groupe d'amis en disant « Bah non, on va les faire disparaître parce que c'est nous et c'est nous. » Je vais pas aller plus loin parce qu'après ça va commencer à vous spoiler le scénario. Ce que je peux dire après, c'est qu'il a été adapté en animé, en série animée en 2011. Il y a un film qui est sorti en avril 2013 au Japon qui suit l'animé. L'animé globalement va assez bien vous raconter toute l'histoire, mais le problème c'est que si vous faites l'animé, globalement vous allez être spoilé complètement du jeu. Le jeu a connu une suite et deux spin-offs ensuite. Ici vous avez une screenshot du jeu. Donc je voulais vous montrer l'interface assez particulière qui vous montre qu'on peut faire un peu n'importe quoi avec des visual novels notamment. Ici vous avez par exemple le téléphone portable. Alors c'est le téléphone portable du héros. Et dessus vous pouvez voir que pour renforcer l'immersion, on le fait apparaître pour pouvoir avoir des interactions du type il est en train de passer un appel, il est en train de lire un message, d'envoyer un SMS. Et globalement c'est des éléments de décor qui sont pas grand chose mais qui permettent justement de, encore une fois, s'affranchir des carcans qu'on peut avoir habituellement et de renforcer ainsi l'immersion. Ici, une autre screenshot qui vous permet de vous montrer globalement les graphismes. Les graphismes ont été faits par Hugh. Hugh, pour ceux qui peuvent le connaître, il a fait les graphismes notamment de Black Rock Shooter, qui fait partie de l'univers Vocaloid. Je vais revenir maintenant sur le jeu. Le jeu est d'une longueur quand même assez élevée, d'une trentaine à une quarantaine d'heures. Il faut savoir qu'il y a 5 routes pour chaque... Enfin, chaque héroïne a une route, il y a 5 héroïnes, donc 5 routes. Et enfin, une, ce qu'on appelle la true end, la vraie fin, que vous pouvez ensuite avoir, qui vous permet de rassembler toutes les histoires et de dire la vraie fin, c'est ça. Au milieu de ça, vous avez toutes les mauvaises fins, les bad ends, qui se finissent évidemment mal. Et globalement, tout ça, ça vous permet d'obtenir du coup un bon paquet de textes. Globalement, je vais finir en disant que ce visual novel, lui, est traduit officiellement par une compagnie qui s'appelle JAS USA, en anglais. Il devrait sortir fin 2013, début 2014. On espère un jour le voir traduit en France, mais pour l'instant, c'est pas tout à fait quelque chose qu'on va envisager dans l'immédiat. Bien, je vais passer la parole à Mop, qui va détailler le reste.
Donc là, on a vu que le visual novel, c'est essentiellement un support qui est originaire du Japon. Donc c'est là qu'ont été créés les premiers visual novels, et c'est là qu'est principalement le public qui y joue. Mais les visual novels sont aussi sortis de l'archipel nippon, et ça grâce à plusieurs acteurs. Donc on peut le précurseur, c'est JAS USA. Donc c'est une boîte qui a traduit des visual novels japonais, en l'occurrence en anglais, et qui les a publiés pour que les occidentaux puissent y jouer, en l'occurrence en anglais. On a un autre acteur aussi plus récent dans le domaine qui s'appelle Manga Gamer, qui lui fait la même chose, c'est-à-dire prend des visual novels d'origine japonaise, les traduit en anglais et les vend sur Internet. On peut constater aussi que le visual novel est un support qui devient de plus en plus grand public, dans le sens où on peut trouver quelques visual novels sur la plateforme de téléchargement Steam. Donc, j'imagine que plusieurs d'entre vous connaissent cette plateforme. Donc, en jeu, on peut citer Analog History, qui est un visual novel occidental, donc créé par des occidentaux, et Igarashi, qui est un visual novel japonais qui a été traduit en anglais et en français. Donc, de la même manière que l'animation japonaise a été est devenue fortement connue en Occident grâce au fansub, donc c'est-à-dire la traduction amateur, on a constaté le même effet au niveau des visual novels, c'est-à-dire qu'il y a eu des équipes amateurs qui ont traduit des visual novels japonais, la plupart du temps en anglais, pour les visual novels qui sont sortis en Occident. Donc, on constate aujourd'hui que le visual novel n'existe pas que en tant que traduction de visual novel japonais. Il y a aussi des créations, notamment il y a un concours qui s'appelle le concours NaNoWriMo. Donc c'est un concours annuel de création de visual novel. Donc ça dure un mois et pendant un mois, différentes équipes s'affrontent pour créer le meilleur visual novel possible. Et à la fin, les différents visual novels sont notés et il y a un gagnant. Il y a aussi donc quelques studios amateurs, voire même semi-professionnels, qui se mettent à faire des visual novels en Occident. Alors ça, c'était pour le paysage international. En France, le paysage est beaucoup plus restreint, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'acteurs dans ce paysage. On a un seul acteur professionnel, qui est Safran Prod, donc, qui, lui, a traduit en français et édité le jeu VN Igarashi. Alors, Safran Prod, c'est pas n'importe qui, c'est le traducteur officiel de beaucoup de jeux Pokémon. Donc, c'est quelqu'un qui a du passif et donc qui fait un travail de qualité. On peut noter Kawasoft, donc nous, on a un niveau amateur, on n'est qu'une simple association d'amateurs, mais on essaye d'avoir un niveau semi-professionnel, c'est-à-dire on accorde une grande importance à la qualité de nos traductions, à la qualité des sorties qu'on fait. Notre grande particularité, c'est que nos traductions sont légales, c'est-à-dire qu'elles sont faites, ce n'est pas du fan-trad, c'est des traductions qui sont faites en accord avec les auteurs. On a une autre particularité, c'est que la plupart des jeux qu'on a traduits, on les édite aussi sous format physique. C'est-à-dire que, comme n'importe quel jeu, c'est un boîtier avec un DVD, vous installez le jeu sur l'ordinateur. Donc, on a en vente ces jeux sur notre stand qui est derrière vous, tout au fond, là-bas. Il y a aussi d'autres équipes de traduction amateurs, donc là, en fan-trad, où elles n'ont pas forcément l'accord de l'auteur. On constate une production professionnelle, c'est Amour Sucré. C'est un autogay, donc un simulateur de drague pour public majoritairement féminin. C'est un visual novel par navigateur, donc sur Internet. On a aussi des productions amateurs. Donc il y a trois studios principaux. Tromende Smetchen, qui a créé trois visual novels. On a Noxais, qui c'est des Nantais. Qui ont créé un visual novel, et Take Moon France, une association dont je fais partie, qui a aussi créé un visual novel. On a aussi un concours à notre niveau, donc c'est pendant la convention Epitanime à Paris. Il y a en gros 12 heures, les équipes ont une douzaine d'heures pour créer le meilleur visual novel, donc comme le concours NaNoWriMo, mais sur un temps beaucoup plus restreint. Donc, en résumé sur cette partie de présentation de qu'est-ce qu'est un visual novel, ce qu'on peut constater, c'est que le visual novel n'est qu'un support créatif. C'est-à-dire, de la même manière que le roman n'est qu'un moyen de raconter des histoires, le visual novel, c'est la même chose, c'est un moyen de raconter une histoire. Cependant, il permet une expressivité beaucoup plus riche et plus de possibilités de narration, ce que ne peut pas un support papier. On constate aujourd'hui une concentration du marché au Japon, c'est-à-dire que il y a un léger recul du marché et donc les différents acteurs, les différents créateurs de visual novel ont tendance à se concentrer. Mais grâce à l'engouement du public occidental pour ce support, ça connaît un renouveau hors du Japon, donc dans nos frontières. Donc je vais maintenant passer la parole à notre président bien-aimé pour présenter l'association Kawasoft.
Bien, donc oui, je vais vous parler un petit peu de l'association Kawasoft et notamment de ce qu'on a fait. Donc l'association, pour un petit historique, a été fondée en 2008, à la base pour bosser sur le projet Narcissus, Narcissus premier du nom. Aujourd'hui, le but de l'association est la promotion du visual novel. Ça passe sous plusieurs aspects. Donc la traduction de visual novel directement, on tourne à une moyenne de 1 à 2 projets par an. Sa diffusion au sein de conventions, par exemple, on est présent à Japan Expo depuis 2009, annuellement. On essaye aussi, depuis globalement 2 ans, de faire des conventions un petit peu plus petites et plus conviviales, notamment, pour un petit peu mieux présenter, et aussi par le biais de présentations comme celle-ci au public, pour leur faire découvrir le médium. Dans nos trucs assez connus, on a Katawa Shoujo et World Dance, sur lesquels je reviens tout de suite après. Donc on est en lien avec plusieurs acteurs et studios qui sont de tout horizon. Il y a le Japon, les États-Unis, l'Allemagne et plein d'autres. Donc là, vous avez une liste de tous les VN qu'on a fait. Donc il y a Narcissus 1 et Narcissus 2 qui sont donc des Utsuge. Comme je vous ai dit au début, c'est des histoires déprimantes. Dessus, ce qu'on peut dire, le studio original est japonais. Et ensuite, on a eu True Remembrance, qui est aussi fait par un studio japonais. Alors, on l'a pas en boîte, malheureusement, pour vous le montrer. Ici, c'est une histoire dramatique, mais qui n'est pas un Utsuge. Plutôt tendance Nakige, mais pas tout à fait. Donc à pleurer, mais pas trop. Ensuite, on a eu Katawa Shoujo. Donc Katawa Shoujo, c'est celui-ci. C'est une histoire qui est plus comédie romantique avec un petit peu de drama quand même. Katawa Shoujo a été fait, lui, par un studio, alors à la base américain, mais qui regroupe une équipe assez internationale. Dedans, vous avez des Finlandais, je crois qu'il y a un Indonésien, un Malaisien, et ce genre de choses. Donc c'est vraiment une équipe pluriculturelle qui a bossé là-dessus. Et il est assez long, et globalement, c'est le visual novel le plus long qu'on ait eu à traduire. On a ensuite eu The Elevator. Alors The Elevator, c'est un projet qui lui est assez particulier parce que c'est un visual novel qui est absolument pas comme les visual novels japonais. En fait, on sent très clairement qu'il y a une touche occidentale. Alors The Elevator, pour la couverture, c'est celui-là. Malheureusement, c'est pas très graphique pour la plupart des gens. Donc il s'agit d'un thriller qui est fait par une équipe composée d'une américaine et d'une australienne et qui là est complètement occidentale. On a ensuite Sugar's Delight, qui est un Ukige, donc une histoire avec des contenus pour adultes. Alors on ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais globalement, c'est quelque chose d'assez assez léger, un peu une comédie romantique, encore une fois. Ça a été fait par une équipe qui est composée d'un Allemand et d'Américains. Et enfin, World End Economica, qui est probablement le projet le plus important en termes de retombées et de réputation qu'on a pu avoir auprès de nos ayants droit japonais. Donc World End Economica, c'est celui-là. Il a été fait par un studio japonais. On va revenir en détail là-dessus. Mais pour vous dire, ça parle de SF, de la Lune et d'autres choses de ce genre-là. Bien, je vais maintenant passer la main à Amop, qui va nous parler de Narcissus.
Donc Narcissus, c'est ça. Donc la boîte, vous voyez en photo la boîte du jeu. Je l'ai aussi dans la main. Il y a aussi l'écran titre, c'est-à-dire quand vous lancez le jeu, c'est l'écran sur lequel vous allez arriver, comme dans n'importe quel jeu vidéo. Donc Narcissus, en termes au niveau de ses caractéristiques, c'est un kinetic novel, c'est-à-dire qu'on vous raconte une histoire unique, il n'y a pas de choix, vous n'avez aucune influence sur l'histoire, vous êtes juste là pour lire et vivre l'histoire. C'est aussi un utsuge, c'est-à-dire une histoire qui a vocation à être déprimante. Donc dans Narcissus, premier du nom, on suit l'histoire d'un patient qui est atteint d'une maladie incurable, donc il se retrouve dans l'aile d'un hôpital réservé aux malades en phase terminale. Donc dans cette aile, il va faire la connaissance de Setsumi, donc une jeune fille qui est elle aussi condamnée. Et ensemble, en fait, ils vont refuser leur sort et ils s'échappent de l'hôpital. Ils vont partir dans un voyage pour essayer de profiter de la vie une dernière fois, au lieu de rester cloîtré dans un lit d'hôpital. Donc Narcissus 2, qui se passe chronologiquement avant Narcissus, ça nous raconte l'adolescence de Setsumi et sa rencontre avec Himeko, elle aussi malade en phase terminale, dans le même hôpital dans lequel Setsumi va se retrouver quelques années plus tard. Donc ce qu'on peut constater, c'est que Narcissus 2 contient aussi Narcissus 1, c'est-à-dire que dans le deuxième volet, vous avez aussi le premier volet et vous pouvez aussi jouer. Donc ici, on a une capture d'écran, donc on peut se rendre compte que au niveau du graphisme, c'est très simple, c'est-à-dire vous avez une illustration, vous avez le texte en dessous, il n'y a pas de fioriture. Cette capture d'écran a la particularité d'avoir un des personnages représentés. C'est assez rare et ça vient d'une volonté de l'auteur de réduire les éléments graphiques au strict minimum. Donc, c'est-à-dire que les personnages sont rarement représentés, on a juste un décor, le décor de l'action, mais on a rarement les personnages. Et l'auteur a voulu faire ça pour en fait que le lecteur puisse se concentrer sur l'histoire et s'immerger encore plus profondément dans l'histoire. Et croyez-moi, ça marche. Donc, les thèmes abordés sont adultes dans le sens où ça parle de la fin de la vie, ça parle de tout le questionnement qu'il y a autour de cette thématique. Donc c'est une histoire pas forcément à donner à n'importe qui. C'est une histoire tragique, ce sont des histoires tragiques dans les deux volets, puisque en fait ça nous parle de personnes qui sont condamnées, qui ont conscience d'être condamnées, qui ne peuvent rien faire face à ça, à part essayer de profiter de la vie une dernière fois. Donc comme je vous ai dit, il y a deux volets, ça veut dire qu'il y en a un troisième. Donc on a traduit les deux premiers volets. On a pu le faire parce que on a rencontré l'auteur, il avait les droits sur les deux premiers volets, donc il nous a permis de le traduire et de l'éditer en français. Pour le troisième volet, il a été édité par Kadokawa Shoten, qui est un très grand éditeur japonais. Et donc là, on passe dans la cour des grands, et pour une petite association comme nous, ça devient beaucoup plus difficile d'aller dialoguer et d'aller demander « S'il vous plaît, monsieur, est-ce qu'on pourrait traduire votre œuvre ?» Donc on n'a pas pu le faire. Ce qu'on peut dire, c'est que le jeu a eu un certain succès au Japon, à l'étranger notamment parce qu'il a été traduit dans énormément de langues, donc le français, mais aussi l'anglais, l'allemand, le vietnamien, l'indonésien et encore d'autres langues. Ce qui fait que c'est un des visual novels les plus joués et les plus connus en Occident. Donc, on va passer maintenant à Kohaku qui va vous parler un peu de Warden Economica.
J'en sais rien, je m'en fous.
Bien, donc Warden Economica, qui est le dernier jeu qu'on a sorti, donc que vous pouvez voir ici. Donc c'est un kinetic novel, c'est-à-dire que dans celui-ci, c'est une histoire linéaire où il n'y a pas de choix. Il est sorti en 2011, a été fait par le studio Spicy Tales, qui a été créé pour l'occasion. Donc il a été écrit par Izuna Hasekura, qui pour ceux qui connaissent un peu Japanimation, est l'auteur de Spice and Wolf, donc qui est aussi très connu, a été édité aussi bien en animé qu'en manga suite à ses romans, mangas qui sont sortis en France. Donc pour revenir sur Warden Economica, donc nous l'avons sorti à Japan Expo en juillet 2013 où il a rencontré un certain succès. Et il a aussi été sorti en anglais où il a rencontré un succès à l'étranger. Donc c'est un jeu tout public, mais il est recommandé d'avoir 15-16 ans au moins minimum pour y jouer. Car aussi bien au niveau du langage que des termes abordés, c'est quand même un jeu assez compliqué. Car il parle beaucoup d'économie. Donc c'est un jeu qui dure environ une quinzaine d'heures en lecture. Donc ce que vous pouvez voir, c'est le premier volet de la trilogie que nous avons sorti donc cet été. La trilogie est quant à elle finie de sortir au Japon. Donc c'est un jeu très science-fiction. En effet, on se trouve dans le futur, sur la Lune. Donc les hommes ont réussi à créer un ascenseur orbital qui permet de naviguer entre les deux astres de façon plus ou moins facile. Donc on y suit Halu. Donc c'est un jeune adolescent qui a fugué de chez ses parents, qui habitait sur la Lune, et qui donc, pour réaliser ses rêves et survivre, va jouer en bourse pour tenter de devenir riche, tout simplement. Donc une particularité de ce jeu, donc, c'est qu'il est très didactique, et donc via l'histoire des personnages, on nous fait découvrir comment fonctionne la bourse, et ça permet aussi, même si on est un néophyte, de comprendre ce qui se passe, les transactions boursières et de voir ce que les héros font et de comprendre ce qu'ils font. Donc après, même si vous n'êtes pas féru d'économie on a aussi une vraie histoire avec des péripéties, de la romance, énormément de choses qui se passent, donc ça reste quand même intéressant. Donc ce qui est particulièrement intéressant au niveau de ce jeu, c'est que l'auteur, qui est pourtant une personne très connue au Japon, a créé un studio amateur pour le faire éditer, car c'est un projet qui lui tenait à cœur, et donc il a eu une démarche proactive pour aller voir des étrangers, pour le faire sortir à l'étranger. Donc c'est comme ça qu'on l'a sorti en France et qu'il est aussi sorti en américain, en même temps d'ailleurs. Donc on peut aussi noter que il a réussi à le sortir en amateur, car quelque chose qu'il faut noter sur les visual novels, c'est que c'est un média qui n'est pas très cher à faire. Donc certes, c'est plus cher qu'un livre, mais ça reste énormément moins cher qu'un jeu vidéo normal ou un film. Donc ce qui permet, avec un peu de financement et avec une équipe relativement restreinte, donc quelques personnes pour les graphismes, une personne pour l'histoire, des musiques qui peuvent être tout simplement prises libre de droit ou des choses comme ça, on peut arriver à faire un jeu avec des sommes assez, assez peu élevées. Et donc c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. Voilà, donc maintenant Mob va vous faire une présentation du jeu pour que vous voyez en vrai comment ça se passe, un visual novel.
Donc un visual novel, finalement, c'est comme un jeu vidéo. Vous le lancez, il y a une petite icône, vous double-cliquez, ça lance le jeu, vous avez le studio, l'image du studio, etc. Vous arrivez sur l'écran titre qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc ensuite, hop, on va lancer le jeu. Donc vous avez une petite musique de fond, une musique d'ambiance. Donc on va tout simplement lancer le début du jeu. Donc là on passe sur une illustration. Vous voyez qu'il y a l'interface. On a le texte qui va défiler, qui va s'afficher. Et là, c'est là que vous pouvez commencer à lire. Donc au niveau de l'interface, vous pouvez voir, on a save, load, quick save et tout ça. Donc comme vous pouvez constater, l'interface n'a pas été traduite, tout simplement parce que dans la version originale, c'est déjà en anglais, et que si on avait voulu le traduire en français, il aurait fallu complètement déformer l'interface, ça n'aurait pas été joli du tout. Donc on a pris le parti de laisser ça en version originale. Donc comme dans n'importe quel jeu vidéo, vous pouvez sauvegarder votre avancée, charger une partie que vous auriez fait avant. On peut avoir accès à la configuration aussi. Donc dans la configuration, vous pouvez choisir si le jeu est en fenêtré, en plein écran, classique. Vous pouvez aussi choisir la vitesse de défilement du texte. Donc là, elle n'était pas rapide du tout, donc on va essayer de l'augmenter. Et donc vous pouvez aussi régler la vitesse de défilement auto, j'y reviendrai, volume de la musique, volume des effets sonores, etc. Police de caractère, si vous voulez une police un peu plus lisible ou non. Donc là, on a changé la vitesse, vous allez voir, le texte s'affiche beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est selon votre convenance. Vous voyez bien que tant que vous n'avez pas fini de lire, de toute façon, il faut cliquer pour passer à la suite. On peut aussi, donc on va charger une partie qu'on a enregistrée précédemment. Donc on va vous montrer le mode automatique. Donc là, en fait, c'est que le texte défile automatiquement et passe automatiquement à la suite. Donc on peut régler la vitesse à laquelle le passage se fait. Et donc là, on va vous passer en fait l'opening du jeu. Donc c'est une petite minute d'animation créée par l'auteur pour un peu présenter l'univers du jeu. Donc ça va partir dans quelques secondes.
On répondra aux questions après, puisqu'après ce sera la fin de notre présentation.
Voilà, donc ça conclut notre présentation. Alors pour ceux qui ont peut-être l'oreille un peu musicale et qui regardent un petit peu beaucoup d'animés, ça vous rappellera peut-être le fait... Enfin, cet opening est fait aussi musicalement par le même groupe qui a fait l'opening de High School of the Dead, pour ceux qui connaissent. C'est pour ça que le style musical vous rappellera peut-être quelque chose. Bien, on va maintenant passer à une séquence de questions. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions à nous poser... Monsieur là-bas.
Bonjour. J'ai une question importante. Vous n'avez pas parlé d'un jeu qui est sorti sur console en Europe, sur DS, qui pourrait être considéré comme un visual novel. Une histoire d'un jeune avocat au costume bleu qui se nomme Phoenix Wright. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un visual novel ?
Alors, Phoenix Wright a de grosses parties visual novel. Donc effectivement, personnellement, je le considère comme un visual novel avec des parties un petit peu comme des mini-jeux à côté, tout ce qui est les parties détectives, etc. On n'en a pas parlé parce que on a déjà une présentation suffisamment longue et on a préféré se focaliser sur des visual novels plus plus visual novels, justement des trucs où il y a plus de texte et moins d'interaction, on va dire, pour montrer plus que ça peut être comme ça. Mais effectivement, Phoenix Wright c'est un visual novel aussi. Ah, au fond là-bas.
Je vais rebondir un peu sur la question de ce fringant jeune homme. En parlant de Phoenix Wright, justement, est-ce que c'est pas un peu la preuve que, enfin, vous avez dit que ça augmente, le public augmentait en Occident, mais Phoenix Wright 5 est sorti en France uniquement en anglais et en téléchargeable. Alors certes, le téléchargement permet de toucher un public plus de niche, mais ils avaient essayé un petit peu de le sortir avant et, je sais pas si le succès était vraiment au rendez-vous.
Alors malheureusement, je dirais pour Phoenix Wright, je connais Phoenix Wright, mais je ne m'y connais pas énormément sur tout ce qui est partie licence et partie commerciale, donc je pourrais pas trop répondre à la question de façon certaine, désolé.
Bonjour, moi je voudrais vous poser une question. Vous n'avez pas parlé de Sakura Taisen, qui est d'abord sorti sur Sega, Dreamcast, PlayStation 2, et pourtant c'est quelque chose avec beaucoup de textes. Des petites interactions RPG, du mecha et tout. J'aurais voulu savoir pourquoi.
Alors, je vais répondre la même chose que pour Phoenix Wright. Malheureusement, on est assez limité en temps. Alors, on aurait pu en parler en disant « Ah oui, il y a aussi Sakura Taisen. » Mais il y en a encore plein qu'on peut citer après. Mais honnêtement, Sakura Taisen, alors, effectivement, il y a de grosses parties visual novel, mais je ne sais pas s'il est extrêmement connu, notamment du grand public. Nous, on a vraiment voulu essayer de présenter des trucs un peu plus... récent, on va dire. Steins Gate, typiquement, c'est du 2009. L'anime est sorti en 2011. Je suis sûr qu'il y a potentiellement plus de gens ici qui ont vu Steins Gate que de gens qui connaissent Sakura Taisen. Je pense. Après, peut-être que je me trompe, mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je te laisse conclure. Très bien. On vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. Donc, si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, ou si vous voulez voir les produits que nous on a de façon plus détaillée que juste sur une présentation, vous pouvez nous voir sur notre stand qui est juste derrière la scène là-bas. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site web kawasoft.fr ou sur Twitter. Merci de votre attention.
Merci.